Salut à tous, bienvenue, bonjour pour On se dit les choses, le podcast des sports de la REP et de l'éclair. Vincent Martinelli, enchanté. Une bonne fin de semaine se prépare, hein. On a beaucoup de matière à traiter aujourd'hui. Déjà les présentations qui vont être courtes, rapides, efficaces, j'en suis sûr. Bonjour Jean Forêt.
Oui, bonjour tout le monde.
En face de vous, on trouve Jérôme Carrère.
Bonjour Berne, bonjour la Soule et bonjour aux deux poules de Grégory Le Thor.
Ah, c'est une annonce. Carnet rose. En face, le plus affûté comme une lame, toujours quand on parle de poule, Christian Saint-Pé.
Adichat Satouts et Agour Chibiroa.
Il faut qu'il parle en basque. Une semaine comme celle-ci, Christian, bravo. Et enfin, pour conclure, la fraîcheur, Anne Pouchant.
Bonjour à toutes et à tous, comme dirait Nicolas Canteloup.
on a des règles dans ce podcast, on ne peut pas tout faire non plus. Nous attaquons. Par l'actualité la plus brûlante, celle qui vous empêche de dormir depuis au moins 3 semaines, Jérôme, si j'en juge
la lettre est tirée, hein.
La taille de vos valises. Ce match de demain soir, 20h45, au stade du Hameau, dans un huis clos assourdissant, Pau-Bayonne.
Le match de la peur.
Le match de la peur. Oui, enfin, le match de la peur.
Pas trop, en fait. Hein. Non, pas tant que ça. Non, en fait, c'est un peu le match. Il faut que la section gagne, en fait. Voilà, l'équation est super simple. C'est-à-dire qu'en gros, les Palois, ils sont 7 points derrière les Bayonnais. Donc là, il faut gagner parce qu'à 6 journées de la fin, s'ils ne gagnent pas, ils seront trop décrochés. Et a priori, le barrage leur semblera promis.
Disons qu'ils ont un pied en barrage. S'ils ne gagnent pas demain soir, ils ont un pied et 4 orteils en barrage. On est d'accord, hein.
Tout à fait, je pense que ça c'est bien résumé, ouais, comme ça.
On a l'impression aussi que les barrages, ils les ont intégrés. C'est plus du tout un mot tabou dans les paroles, que ça aille du président au joueur, au staff. Ils désérotisent le truc, quoi. Disons qu'ils ont bien intégré qu'ils y allaient quand même.
Le barrage, ils en parlent. Après, Bernard Pourneau, lui, il est plutôt sur une ligne où, pour lui, on ne peut pas se projeter sur les 7 matchs, en fait, puisqu'il reste 6 matchs de top 14, plus éventuellement le 7e. Donc lui, il est plutôt du genre, effaçons tout ce qui s'est fait avant, allons-y contre Bayonne, allons-y fort jusqu'à la fin de la saison, et puis on verra bien ce qui arrive. Alors que Julien Fumat, qui avait également donné une interview dans nos colonnes, était plutôt du style à mentaliser déjà un peu ce barrage pour éventuellement être au rendez-vous le jour J.
Donc il faut espérer que justement au sein du vestiaire on fasse preuve de pragmatisme, qu'on envisage toutes les pistes, parce qu'effectivement le président doit faire preuve d'un affichage un peu ambitieux. La preuve, on a recruté du champion du monde cette semaine, c'est quand même le paradoxe entre guillemets, ou le côté baroque de cette fin de saison. On s'autorise à mettre une grosse cartouche dans le chargeur. Présentez-nous ça, Jérôme.
Bah déjà, pourquoi est-ce que Elton Yantis, puisque c'est lui l'ouvreur sud-africain, a pu venir, l'ouvreur sud-africain de 30 ans, c'est
que parce la section avait déjà essayé d'attirer il y a quelques mois. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc déjà, il y avait des contacts entre lui et la section il y a quelques mois, effectivement. Et surtout, la LNR a voté en fait une espèce de dérogation pour la fin de saison. Jusqu'au 30 avril, tous les clubs de top 14 ont le droit d'engager un joueur supplémentaire jusqu'à la fin de saison. C'est ce qui a permis à la section de l'embaucher, puisque Anton Aston n'était pas blessé suffisamment longtemps pour qu'ils aient droit à un joker médical. Donc ils ont profité de cette occasion-là. Bernard Pourneau nous l'avait dit également, que du coup ça rouvrait ce dossier-là, qui voulait trouver quelqu'un qui soit au moins à la hauteur d'Anton Astoy. Bon, on peut dire, en regardant le palmarès d'Elton Yantis, qui a 37 sélections avec les Box, un joueur de 30 ans qui a de l'expérience, mais en revanche qui n'a jamais encore joué en Europe. Donc on verra bien ce que ça peut donner, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que effectivement c'est une belle pioche à ce moment-là de la saison, et c'est quand même inespéré.
Le temps qu'il se familiarise au système de jeu, etc., il devrait être prêt pour le barrage.
Bravo, merci.
Félicitations, Christian. Alors, c'est pas sûr qu'il soit là contre le Stade français.
Oui,
c'est sûr qu'il sera pas là vendredi. Là.
C'est sûr, oui.
C'est pas certain qu'il soit là non plus le week-end prochain, selon le protocole sanitaire. On va voir ça aujourd'hui, un petit peu, comment ça se passe. Voilà. On pourra vous en dire plus dès demain, je pense.
D'accord. Donc, ça reste pour l'instant une hypothèse. Enfin, c'est quant à la date exacte où on le verra, crampons au pied et maillot vert sur le dos.
Effectivement, on verra ça très vite pour pouvoir vous en dire plus et vous dire exactement quand est-ce qu'on pourra voir ce joueur effectivement sur le terrain, un joueur assez fantasque, donc a priori qui devrait en tout cas créer un peu d'étincelle dans cette ligne d'attaque paloise.
Ça vous semble une bonne idée justement, dans l'optique du maintien, d'injecter des mecs comme ça aussi épais au niveau du CV, finalement qui eux n'ont pas le passif de la saison sur les épaules, ça peut être le truc qui fera la différence?
Ben je pense que surtout que c'est un profil intéressant parce qu'il ressemble un petit peu à Anton Astoy, on va dire. Anton Astoy qui cette saison est quand même vraiment le dynamiteur de la ligne de trois quarts paloise, qui a du mal quand même à faire des différences. Donc je pense qu'effectivement c'est un peu le profil qu'il leur fallait. Et effectivement après, bon, je connais pas très très bien Elton Yantis, je peux pas vous dire si c'est vraiment un leader ou pas, quelle est sa personnalité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il risque d'arriver avec une certaine fraîcheur. Il pouvait pas jouer en Afrique du Sud, donc il est venu aussi, c'est un choix de sa part de venir en France pour continuer à jouer. Donc a priori effectivement il devrait arriver avec une certaine fraîcheur par rapport à tous les Palois qui ont un peu du plomb dans la tête là, avec tout ce qui se passe ces dernières semaines.
D'accord. Christian, vous vouliez rajouter quelque chose?
Mais oui, Vincent, parce que là, vous m'avez un petit peu perturbé. Vous avez à juste titre parlé de pragmatisme, parce que c'est vraiment ce qu'il faut à la section sur cette fin de saison. Et vous me présentez un joueur fantasque. Donc je me dis, oula.
Créatif.
Oui, après, sur le marché, il n'y avait pas non plus, à mon avis, 10 000 choix. C'est vrai que quand on écoutait des fois les supporters de la section, ils se disaient, oula, on va se retrouver avec un ouvreur de Pro D2 à côté de la retraite pour finir la saison. Bon, là, on se retrouve quand même avec une pointure. Après, on verra.
Vous parlez de Lionel Boxis, là, c'est ça?
Absolument pas. C'est pas mon genre, Lionel Boxis, c'est dans mon cœur, il y restera jamais. Sachez-le.
C'est un coming out, comme on dit. Un dernier mot sur ce match de demain soir. Bayonne. Bayonne n'a rien à perdre. Ils ont 7 points d'avance. Pour eux, c'est tout bonus. Du coup, encore plus dangereux.
Je ne sais pas si ça sera plus dangereux. Ce qui est sûr, c'est que la section paloise, elle, n'a plus le choix, alors que Bayonne a des jokers éventuellement à griller. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, les Bayonnais aussi savent pertinemment, comme le dit Bernard Pondot aujourd'hui dans nos colonnes, que s'ils gagnent ce match, c'est fait. Hein. Ils sont maintenus. Donc effectivement, ils vont arriver là avec une certaine tranquillité aussi, mais en même temps, je pense, en voulant vraiment mettre la tête des Palois sous l'eau, comme l'a dit également Thibaut Daubagnat, puisqu'ils savent en gros que si c'est gagné, là, c'est bon pour eux, quoi.
Tout un tas de choses et de facteurs qui seront développés dans notre journal de vendredi. Je me permets de faire un peu d'auto-promo, ça fait pas de mal, avec 8 pages spéciales sur ce match pour Bayonne, donc qui sera en plus développé en long, en large et en travers, et même sur les côtés, dans notre édition de samedi. On a parlé de joker, on a parlé de maintien. C'est un langage qui sonne clair aux oreilles de Jean Fauré, qui lui s'y connaît en joker médicaux, en contrat court. L'élan béarnais... Mais que se passe-t-il, Jean? Ça y est, transfiguré? Non, plus sérieusement, vous l'avez dit, cette équipe est solide, cette équipe a de l'avenir. On aurait dit des slogans de François Hollande au présidentiel. Cet élan-là n'a plus rien à voir avec l'élan de... On lui souhaite un meilleur destin. Cet élan-là n'a plus rien à voir avec celle qui a commencé la saison. Hein.
Oui, même celui qui joue encore il y a un mois. Si on fait le rapprochement de Rouen à Rouen, puisque le calendrier a fait qu'ils ont joué Rouen deux fois en trois semaines et demie, moins 21 au Palais, un match d'un sinistre absolu, à plus 18 mardi soir à la 25e. Donc effectivement, c'est le grand écart pour cet élan, qui mentalement n'est plus absolument plus le même. Et même sur le parquet, c'est une nouvelle équipe, puisque Bibin s'est revenu samedi dernier face à Strasbourg pour cette belle victoire déjà. Et après deux mois et demi, franchement, il a un niveau, on ne s'attendait pas à le voir aussi performant, notamment mardi soir, où il a rayonné sur la maîtrise du jeu avec ses 16 points, ses 7 passes et une assurance en fin de match qui a fait un grand bien. Elle est lente, tout comme la première de Jay Treat, donc le 15e contrat pro, le pigiste qui arrive sur le joker médical Douzman Dramé, qui joue pas au même poste évidemment, et qui apporte aussi, qui a été très sobre, qui a mis 5 points d'entrée, après qui fait 5 passes, et à la fin, il termine le match associé à Bibins, et les deux à l'arrière, les deux petits modèles là, ça apporte une sacrée assurance à cet élan.
Un élan qui donc, je le rappelle, a 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Hein. C'est l'effet Bartechecki ça?
C'est l'effet Bartechecki, c'est sûr que sans l'arrivée d'Ari Bartechecki, il n'y aura pas eu 3 victoires en 4 matchs. Je pense que la série de défaites sera à 15 ou 16. Les joueurs le reconnaissent et c'est pas moi qui l'ai inventé. Peter Cornelli le disait, lui qui rayonne depuis qui était très bon toute la saison, mais avec des hauts et bas. Et depuis que Bartechecki est là, il a gagné en constance et c'est peut-être le meilleur joueur français depuis un mois dans le championnat évidemment. Donc effet Bartechecki, oui, il a redonné un second souffle à cette équipe. Voilà, le fameux choc psychologique a eu lieu. Sa défense est solidaire. Les joueurs ont compris ce que le coach demandait et tout le monde tire dans le même sens. Et forcément, au lieu d'encaisser 96 points par match comme c'était le cas pendant 3 mois, sur les deux derniers, 72 et 69, ça veut tout dire.
Après, ils sont sortis de la zone de rouge à la faveur de leur victoire contre Rouen, de très peu. Et surtout, rappelez-nous, il y a la question de tous ces matchs que les adversaires n'ont pas tous joué. Tout le monde n'est pas au même niveau, hein, donc il faut regarder ce classement avec encore beaucoup de prudence.
Oui, évidemment. Alors, si on veut regarder le côté positif, on regarde le nombre de victoires. Et là, effectivement, l'élan avec 6 victoires, 6 victoires, a rattrapé Chalon-Reims et Cholet, devant Nanterre et Boulazac. Donc, on dirait que tout va bien. Par contre, si on regarde le nombre de défaites, l'élan est dernier avec Boulazac. Donc, il vaut mieux prendre en compte, comme le préconise la Ligue, c'est le pourcentage de victoires. Et là, effectivement, l'élan est 16e avec 31,6% de victoires qui devance Nanterre. De 0,2 ou 3%, donc franchement, ça veut rien dire, c'est anecdotique. seulement psychologiquement, c'est quand même important, d'avoir décollé de cette 17e place, d'avoir fait le trou sur Boulazac, qu'on avait pris 30 au palais, au match aller. Ça... Et donc, effectivement, rien n'est fait. Ils étaient dans la zone rouge vif. Là, ils passent à l'orange. Mais l'idéal, ça serait d'enchaîner. Si possible, samedi, on en reparlera. Mais surtout, après la mini-trêve qui arrivera après l'ASVEL, c'est là qu'il faudra vraiment engranger les matchs, les victoires.
Jean, vous nous en avez déjà parlé dans nos colonnes, mais ma mémoire me trahit. Il faut situer le maintien à peu près à combien de victoires, selon vous, à quelque chose près? Puisque là, ils sont à 6 victoires, il en manque encore à peu près combien?
6. Il en manque, oui, à 12 victoires, sauf au concours de circonstances qui est possible. Hein, mais en général, à 11, on peut se maintenir. 12, c'est quasi certain. Donc, il en manque 6. Il reste 16 matchs. Ils en ont joué 19, c'est ça? Sur 34, ça fait ça. Il en reste 15 ou 16. Donc, voilà, il faut faire 6 sur 15 pour finir. Sachant que si on regarde le calendrier, l'élan, normalement, sera quasiment pas favori, mais a les moyens de remporter les 7 derniers matchs. Tous les gros matchs arrivent maintenant. Et sur les 7 derniers matchs, c'est du Gravelines, c'est du Portel, c'est du Cholet, c'est du Chalon et du Limoges à domicile. Il n'y a plus de gros, vraiment de très gros. Donc, sachant que l'élan attend un pivot, on en reparlera aussi. Et s'ils sont épargnés par les blessures, évidemment, ce qui est loin d'être le cas, puisqu'on voit l'hécatombe dans toutes les autres équipes, partout, a les moyens sportifs de décrocher ce maintien.
Donc on en reparlera. Donc une émission de 57 minutes aujourd'hui, je vous l'annonce. Donc préparez, si vous devez aller aux toilettes, faites une petite pause. C'est maintenant. Non, c'est juste la première pause, la première
entracte. Heureusement qu'il n'y a pas de vignette Panini quand même, en diapélite.
Cet enchaînement, vous l'avez dit, le prochain enchaînement, vous l'avez dit, les gros arrivent. Boulogne samedi, l'ASVEL le 20 avril. Là par contre, pas de panique, ça va secouer.
Oui, pas de panique, le Valois, bon, l'élan, bon, c'était avec une autre équipe, avait failli s'imposer à le Valois au match aller. Donc forcément, ils ne partiront pas avec les faveurs du pronostic samedi, mais c'est jouable avec l'état d'esprit retrouvé, pourquoi pas, un match serré. Mais attention, hein, le Valois, meilleure défense du championnat, je crois que c'est 72 points encaissés en moyenne. Ils ont mis une bonne branlée mardi soir à Orléans, qui a réussi la performance de ne pas marquer un seul panier du second quart-temps.
Que des lancers, non, c'est ça?
Ouais, c'est ça, 4 points, 4 lancers, 0 panier marqué. Donc quand ça se met en route, la défense de Levallois, c'est du solide. Il y a David Michino, le meneur français qui rayonne, qui a plusieurs clubs de relais qui lui font les yeux doux. C'est aussi le retour de Chicoco, hein, qu'on reverra. Enfin bon, il y a vraiment du matos, entraîné par Yuris Dovce, quand même une référence mondiale, champion du monde avec la Yougoslavie. Vraiment un vrai grand coach, peut-être le meilleur coach en ce moment en France. Donc oui, gros match samedi, sachant que l'élan le jouera dans la même configuration que les derniers, c'est-à-dire avec un intérieur un peu sinistré, puisque Jérémy Leloup a joué 36 minutes au poste 4 à Rouen. Face à Chicoco, Guinat et compagnie, ça risque de faire un peu short. Et ensuite, mardi à l'ASVEL. Donc bon, à l'ASVEL, oui, forcément, là, c'est outsider complet. On ne va pas imaginer une victoire de l'élan mardi à l'ASVEL, sait-on jamais. Et voilà. Et après, ce sera une semaine de repos avant d'attaquer les étapes plus faciles, un petit peu sportivement, mais beaucoup plus importantes pour le classement avec le Portel et Cholet.
Avec, dernière question, parce que vous, quand même, vous tenez méchamment le crachoir. Un pivot, donc, le dernier contrat, on peut l'attendre, j'imagine, quand je vous écoute, après l'ASVEL?
On peut l'attendre peut-être arriver à Pau ce week-end, puisque je sais que le club est sur deux pistes sérieuses. Voilà, donc ce ne sera pas un Américain puisque le quota est rempli. Donc on peut imaginer un joueur qui arrive ce week-end, qui soit, espérons le qualifier pour l'ASVEL, pour jouer quelques minutes, voilà, prendre un petit peu la température du bordel. Et pour être vraiment opérationnel la semaine suivante, le mardi suivant, au Portel. Voilà. Et sachant que la semaine prochaine, c'est quand même une semaine aussi super importante pour le club, puisque les Américains débarquent à Pau dès lundi. Il y aura Tom Houston du groupe CSG qui sera là pour rencontrer joueurs, salariés, entreprises, partenaires, etc. Et puisque le projet avance et apparemment serait finalisé à 90%.
Bien, il y a des choses qui avancent, ça se décante. On reste en salle et on revient à vendredi. C'est même l'équipe qui va commencer, qui va ouvrir ce week-end en fait. On aurait pu commencer par là aussi. C'est le BHB Bière qui reçoit donc demain soir à 19h Célestat. Donc la dernière fois, Anne, qu'une équipe alsacienne s'est pointée au Sporting d'Est, j'y étais contre Strasbourg, ça s'est pas forcément très bien passé. Mais là, la pression est en moins, la victoire est revenue, le, main, maintien est quasi dans la poche.
Ouais, alors ils sont, le Bierhandball n'est absolument pas inquiet pour son maintien. Effectivement, bon, on se répète un petit peu hein, d'une semaine à l'autre, mais ils ont toujours ces 7 points d'avance sur, sur les deux équipes en zone de relégation, Angers et Sarrebourg. Il reste 4 matchs à jouer, même si Angers a 2 matchs en retard. Bon, il y a quand même peu de chances que Bière passe à la trappe. On ne sait pas non plus s'il y aura des descentes cette saison. Ça, ça reste à fixer. Ça devrait être fixé fin avril. Donc, la pression, ils ne l'ont pas. Ils ont retrouvé la victoire à domicile, on le sait, contre Dijon. La semaine dernière, avant d'aller perdre pour le coup en Bourgogne, mais c'était vraiment de peu. Hein. On avait, certains d'entre nous avaient pronostiqué une petite défaite, et c'est ce qui s'est passé, une défaite d'un but. Bon, voilà. Face à Célestat, ça s'était pas bien passé non plus en Alsace à l'aller, puisqu'ils avaient vraiment pris une tôle. Ils étaient revenus avec, ouais, c'était un 32-19
ça
dans les valises.
Ça se passe rarement bien en même temps à Célestat. C'est pas un endroit très accueillant pour pour bière.
Généralement parlant, vous voulez dire.
Non, non, c'est une très jolie ville. Vous ne ferez pas dire ce que j'ai pas dit.
Donc, ils ont une revanche à prendre. Ils ont aussi à conforter effectivement le retour. Enfin, ils ont retrouvé la victoire à domicile face à Dijon, on l'a dit. Donc, ils vont essayer de continuer sur cette ligne-là. Après, bon, faut pas se mentir, Bière est vraiment tourné vers la saison prochaine. Les dirigeants ont fait signer la semaine dernière un jeune un jeune gardien formé au Phoenix de Toulouse. Voilà, ils sont en quête aujourd'hui d'un arrière-droit de qualité, c'est un poste important. Une fois qu'ils auront trouvé cette perle rare, enfin qu'ils cherchent, eh bien le recrutement sera quasiment bouclé. Ensuite, ils vont compléter avec des petits jeunes. Mais clairement, on est tourné vers l'avenir à bien.
Ouais, ils sont tellement tournés vers l'avenir que, si j'ai bien compris, il y a même une rencontre assez importante demain qui est prévue autour du billard handball avec tous les partenaires publics, donc la région, le département, l'agglo. Il y a même la Ligue présente à
tout à fait, il y aura le président de la Ligue, David Tebib, ainsi que Rémi Lévy en tant que vice-président de la Fédération française de handball. Pour Bière, l'enjeu, c'est un petit peu de montrer que, voilà, le handball, enfin de montrer à ses partenaires publics l'importance du club au niveau régional, puisque c'est vrai que aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, bon, hormis Limoges qui évolue donc en Star League, eh bien, Bière tient le haut de tableau, voilà, au niveau régional, et donc essayer de maintenir cette place forte et de dire à l'agglo notamment, on est là et soyez prêts à nous filer un coup de main. Bière avait demandé un coup de main financier à l'agglomération il y a déjà plusieurs mois. Alors cette aide a été gelée, elle n'a pas été accordée. A priori, l'agglomération attendait de voir s'il y en avait réellement besoin par rapport aux aides qu'apportait l'État aux clubs en difficulté dans le cadre de la pandémie. Donc il n'y aura pas d'aide débloquée. Bière est surtout un petit peu inquiet pour la saison prochaine parce que ce qui va être compliqué, c'est de ramener les partenaires. Ça, ils ne sont pas les seuls dans ce cas, mais parmi leurs partenaires, il y a beaucoup d'entreprises privés qui sont pas forcément au beau fixe, au mieux en ce moment, et voilà, qui n'ont pas ôté les sous qu'ils avaient investis dans le partenariat cette saison, mais qui n'ont pas eu la contrepartie forcément. Ils ont eu un petit peu de visibilité grâce aux diffusions qui ont pu être faites des matchs à domicile en tout cas, mais voilà, c'est des partenaires qui avaient acheté pour la saison des places en VIP, etc., qui n'en ont pas bénéficié. Donc le club va revenir vers eux pour essayer de voir comment ils peuvent compenser, mais ils savent pas si ces partenaires seront partants pour la saison prochaine ou si la saison prochaine du coup ils sont partants, mais il faudra compenser, donc il y aura moins.
Pas fini de se creuser les ménages.
Exactement.
Du côté du BHB. Une autre équipe, dernier chapitre de ce podcast, chez qui, pour lesquels les ménages se sont un peu détendus, hein, on va pas se le cacher. Le Pau FC, Jean-Christian.
Oui, le Pau FC.
Il se rappelait pas la semaine dernière.
Je pense que le Bayern Munich, alors ils sont
éliminés. C'est ça, le Bayern Munich, quand c'est City. Sochaux City, dimanche soir au stade Bonal.
Samedi soir.
J'ai dit dimanche, pardon. Samedi soir au stade Bonal, Christian, une équipe du Pau FC, là c'est pareil, on disait que l'élan était transfiguré. Le Pau FC, bon, maintenant l'effet de surprise, après autant de résultats positifs, et il n'y est plus, hein, parce qu'ils battent clairement à la maison avec le caractère qu'ils ont affiché. Le Pau FC sera forcément attendu à Sochaux, mais auront-ils pour autant la pression sur ce sur cette pelouse mythique.
Écoutez, je pense pas, en tout cas, enfin, il a géré très bien la pression sur ces derniers matchs. Je pense qu'ils vont garder leur fil conducteur. C'est-à-dire qu'ils disputent une sorte de finale à chaque match. En fait, ils ne se posent pas de questions et ils jouent le coup à fond. Comme une équipe qui est, depuis 7 matchs, je regardais dernièrement, a le meilleur bilan de Ligue 2 avec le Paris FC. Le Paris FC qui, lui, lutte pour l'accession en Ligue 1 via les barrages. Donc, c'est dire que Pau, comme vous l'avez souligné, est transfiguré et affiche un rythme impressionnant, hein, puisque le Pau FC avance avec uniquement des victoires à domicile, 4 succès consécutifs, et des matchs nuls à l'extérieur, avec donc cette série de 6 matchs sans défaite. Et c'est avec cette confiance et également dans l'idée qu'il reste encore quelques points à gratter et quelques places à gratter pour se maintenir. On sait qu'en Ligue 2, la place finale détermine aussi une partie des droits télé, donc c'est important de finir avec le meilleur classement possible. Il y a une équipe comme Caen qui est juste devant et qui dont Pau a le potentiel pour passer devant. Donc voilà dans quel état d'esprit ils iront à Sochaux. On sera curieux aussi de voir le comportement mardi prochain face à Auxerre, puisqu'il y a un enchaînement de matchs. Et avec l'absence de Souleymane Diarra pour la venue de l'AJ Auxerre, il sera suspendu. Et là, on est curieux de voir un petit peu comment Pau va s'en dépatouiller, puisque c'est une pièce essentielle en milieu de terrain. Mais bon, on n'est pas forcément très inquiet pour eux. Ça permettra à d'autres joueurs aussi de se mettre en valeur et à retenir aussi la belle performance samedi de Romain Armand, qu'on a rarement vu à un tel niveau, avec une débauche d'énergie assez incroyable, que ce soit offensivement mais aussi au niveau des replis défensifs, parce qu'il avait de quoi faire sur son couloir droit. Et il a été également quasiment décisif, puisque c'est lui qui amène l'égalisation paloise.
Donc là, c'est bon, le maintien est dans la poche, Christian.
Vous ne m'avez pas dit, écoutez, Jérôme, il reste encore quelques points à gratter. Bon, tout à l'heure avec Jean, on a parlé d'un...
On parle de camp au-dessus, il faut aller chercher au-dessus, du coup, au-dessous, on ne parle plus.
Mais de toute façon, là, aujourd'hui, quand vous avez votre destin en main, contrairement à un club qui joue en vert et blanc avec un ballon ovale, et que vous avez 4 points d'avance sur Guingamp qui a fait match nul lundi soir contre Toulouse, et que vous avez 7 points d'avance sur le premier relégable Chambly, bon, c'est pas illogique de vouloir gratter des places au-dessus, comme ça vous assurez d'autant plus votre maintien.
Même question qu'on a posée à Jean tout juste avant, vous, à combien de victoires vous évaluez le maintien?
Alors,
combien en manque-t-il?
Ouais, au niveau du foot, combien des matchs nuls? Je vais pas parler en termes de victoires, mais en termes de points. On en a parlé dernièrement avec Alexandre Oliero. On situait la barre du maintien autour de 40 points, parce que c'est un petit peu le lieu commun. On avait des confrères dans la salle qui pensaient que cette année, elle serait un petit peu moindre. Mais bon, je pense qu'elle se situera, on va dire, entre 38 et 40 points.
39.
Ou 39, si vous voulez, Jean. Mais je pense que pour en fait, ils sont pas... Ils sont surtout voilà, dans une...
Rappelez-nous combien de points le Pau FC ?
35, on parle. D'accord. Non, en fait, pour Pau, ce qui compte avant tout, c'est le contenu. Didier Tolo l'a dit depuis plusieurs mois. Et s'il garde ce contenu, les points vont suivre. C'est ce qui se passe actuellement. Et cette barre des 38 ou des 40, elle sera atteinte. Alors, l'objectif, c'est de l'atteindre aussi avant... les deux dernières journées, pour s'éviter un gros coup de stress. Les deux dernières journées, ce sera à Chambly, qui actuellement donc lutte pour le maintien, et ce sera la venue ici de Valenciennes, qui n'aura rien à espérer ni à craindre. Mais voilà, pour s'éviter ce genre de match au couteau, eh bien Pau en tout cas a les cartes en main pour se libérer sur les 3-4 prochains matchs, pour engranger les derniers points qui manquent.
Et voir les choses positivement. Ce qui nous permet de refermer ce podcast positivement avec la page des pronostics. Déjà, Christian, félicitations. Vous pronosticâtes la victoire de l'Élan Béarnais la semaine dernière. Et là, je dois dire que c'était assez velu de votre part et ça a été récompensé. Bravo. Donc, c'est comme pour le Pau FC. Les intentions de jeu sont récompensées. C'est pas Greg Le Thor qui n'est pas là aujourd'hui qui nous dirait le contraire.
On le salue d'ailleurs, dans son poulailler.
Dans son poulailler, Greg, si tu nous entends. Bon courage et bonne récolte. Nous ouvrons les pronostics. Donc, je rappelle les matchs de ce week-end. Bière-Célestat, la section paloise qui reçoit Bayonne et l'élan Béarnais qui reçoit Boulogne-Levallois. Honneur aux dames. Comme ça, elle va être obligée de se lancer en premier. Anne, allez, vas-y, c'est parti pour toi.
Pour Bière, je pronostique une victoire de 2 buts aux alentours de 29-27. Voilà. Ensuite, on a dit élan Béarnais, Boulogne. Ouais, moi je crois aussi beaucoup en Eric Bertéfecky, donc pareil, une victoire de l'élan, mais très serrée. Pau Bayonne. Non, mais bon, après, je suis un petit peu chauvinée supportrice, donc évidemment que la section paloise va engranger des points. Voilà, tout à fait.
Christian, à votre tour.
Le POFC, pardon.
Oui, effectivement, le POFC. Le POFC à Sochaux, c'est parce que je l'avais oublié en entrée.
Et le POFC à Sochaux, 1-1.
Je vais commencer par le foot avec mon traditionnel pronostic. Comme je n'arrive pas à mes fins, donc je pronostique à nouveau pour la énième semaine un 0-0. Sachant que...
Il va bien finir par tomber. Hein.
Sachant que ça permettra à Pau de garder ce fameux rythme, victoire à domicile et nul à l'extérieur. Ensuite, au niveau du basket, je ne peux pas me permettre de pronostiquer une défaite après avoir pronostiqué la victoire.
C'est vrai.
Donc c'est vrai que ça va être très compliqué, comme l'a dit Jean, face à cette énorme défense de Boulogne. Bah, écoutez, on croise les doigts pour que l'élan engrange donc sa septième victoire à la saison, si j'ai bien compté. Ensuite, au niveau du hand, je dirais, je veux croire que Billière va quand même s'offrir une fin de saison sereine au Sporting, et même si ce sera serré, donc victoire billéroise. Et enfin, pour le rugby, j'espère que la section sera quand même en mesure de gagner ce match, parce que sinon la fin de saison va être longue jusqu'au barrage. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que Bayonne ne va pas ramener un point de bonus défensif, ce qui serait malgré tout une excellente opération pour les Basques. Et voilà ce qu'on peut craindre peut-être pour la section, en tout cas ce que je vais pronostiquer. Victoire de Pau, mais bonus défensif pour Bayonne.
Je signale que là, il n'y a aucune défaite dans ce pronostic qui vient d'être fait. Bravo, Jérôme, à vous.
Véritable vague d'optimisme. Bref, la section paloise, je vais commencer par elle. Moi, je pense qu'elle va gagner de 7 points, 29-22, tiens, un truc comme ça.
Bonus off ou pas?
Allez, on va pas s'enflammer quand même. Il n'y en a pas eu depuis 2 ans, on va peut-être pas s'emballer.
Ouais, justement, mais... 29 points, je me dis, sans le meilleur buteur, on sait jamais.
Non,
pas de bonus. Okay.
J'y crois pas. Mais pourquoi pas? Ça serait une bonne nouvelle. Bref, pour la suite, le Pau FC à Sochaux, j'imagine bien une petite victoire 1-0, en hommage à Kamal Tassali qui retrouvera son club formateur, l'entraîneur adjoint du Pau FC.
Ce qu'il nous racontera dans le journal.
Voilà.
Ça,
je fais un peu d'autopromo aussi.
Vous savez,
et pour l'élan béarnais, je sais pas, j'aurais bien aimé avoir le pronostic de Jean, parce qu'à chaque fois il faut faire l'inverse, j'ai l'impression, là, ces derniers temps. Donc Jean, qu'est-ce que t'en penses?
Non, on fouille d'abord.
une petite défaite, malheureusement, je pense, contre Boulogne, de 7 points aussi. Et après, Bière. Putain, j'ai vraiment le mec pessimiste, quoi. J'ai envie de dire une défaite d'un but. Tiens, allez.
Voilà, dans la joie et la bonne humeur, histoire de contrebalancer l'euphorie de Christian. Jean, à vous l'honneur de conclure.
Oui, donc je vais commencer par la section paloise face à l'aviron bayonnais. Je remarque que vous avez tous mis votre joli masque aux couleurs de l'aviron.
Vous aussi, Jean, d'ailleurs.
Oui, moi aussi, oui. Alors, j'ai quand même un peu de mal à pronostiquer une large victoire de la section, puisque sans ouvreur, sans buteur, on va dire, ou avec des remplaçants qui vont jouer, enfin... Avec Astoy blessé, etc., j'ai du mal à croire que la section pourra largement gagner. Attention au début du match, si Bayonne est en tête à la mi-temps, je pense que Bayonne gagnera. Mais ce sera un match serré. Le Pau FC, un partout, Christian, hein, il y aura quand même deux petits buts. Bière en roue libre va gagner tranquille, puisqu'ils sont assurés de se maintenir. Quant à l'élan, petite défaite aussi. Ça va être dur de rivaliser sur la durée face au secteur intérieur de Levallois. Mais ce ne sera pas trop grave. Pas de blessés surtout.
Pas de blessés, et vous aussi y compris, hein. Soyez sages sur ce week-end. Et vous aussi, auditeurs, soyez sages, on vous souhaite un bon week-end. Ça va bien se passer, on est confiants. On vous retrouvera dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine c'est des vacances, toujours, et on va marquer une petite pause. Donc je vous souhaite un bon week-end de match, un bon stress du maintien, et à très bientôt. Au revoir, salut à tous.